l'actualité vue par les livres.
Le 30 janvier dernier, le gouvernement de Stephen Harper a déposé le projet de loi C-51, loi antiterroriste proposée dans la foulée des événements de Saint-Jean-sur-Richelieu et d'Ottawa en octobre dernier, qui augmente sensiblement les pouvoirs des agences de surveillance. Une attaque à la vie privée proche du Patriot Act américain, loi imposée par George Bush au lendemain des attaques du 11 septembre 2001, selon Edward Snowden, qui a critiqué le projet de loi du gouvernement canadien lors d'une vidéoconférence tenue à l'Université de Ryerson à Toronto le 4 mars dernier. Pour mieux comprendre les enjeux de la surveillance des masses, Jean-Philippe Cipriani, deux livres, dont une nouveauté d'ailleurs, qu'a lu Edward Snowden, c'est ce qu'il a dit à Ryerson le 4 mars dernier. Data and Goliath, The Hidden Battles to Collect Your Data and Control Your Mind de Bruce Schneider, publié ce mois-ci chez W.W. Norton. L'auteur est ingénieur, spécialiste des technologies, qualifié de gourou de la sécurité par le magazine britannique The Economist.
Schneider, il n'y a pas de D, c'est assez particulier.
C'est moi qui a vu un D,
mais
là où il n'y en avait
et
pas.
Et paranoïaque, pardon. Vous avez de la matière dans ce livre-là. Je vous mets un peu dans le bain. Avant d'arriver ici, Marie-Louise, j'ai lu des articles sur mon ordinateur, la musique que j'ai écoutée, les émissions que j'ai regardées sur mon téléviseur, ce que j'ai cherché dans les moteurs de recherche, combien de temps je l'ai fait. Tout ça s'est enregistré quelque part. L'heure à laquelle j'ai tweeté pour la première fois, où est-ce que je me suis branché ou débranché de Facebook, ça donne un peu après l'heure où est-ce que je me lève ou je me couche. Les chansons sur YouTube disent si je suis en peine d'amour ou pas. j'ai fait un quiz sur BuzzFeed sur ma stabilité professionnelle et personnelle. Les réponses sont enregistrées avec mon adresse IP à quelque part. Les gens à qui j'ai parlé au téléphone, si j'avais été gossant, j'aurais écrit à tout le monde sur Facebook que j'ai couru 5 km.
Ah oui, il y a beaucoup de gens qui font ça.
Mon bracelet électronique a enregistré mon rythme cardiaque, mes données biométriques, et ce serait là quelque part. Ouais. Mon parcours jusqu'ici, mon GPS dans mon téléphone sait si je suis venu ici en voiture, à pied ou en autobus, si j'ai passé un point à péage aussi. J'ai payé avec ma carte de crédit tout à l'heure au café. Là aussi, il y a des informations qui sont enregistrées. À Radio-Canada, mon visage a été scruté par les caméras de surveillance, probablement dans la rue aussi. Et c'est pas de la science-fiction, c'est pas CSI.
La
reconnaissance
réalité.
Faciale, c'est la réalité. Il y a 52 millions de faces dans les serveurs du FBI. Alors, tout ça pour vous dire que notre relation avec ces petits ordinateurs-là, c'est tous les jours avec des centaines d'ordinateurs, peu importe leurs données. Et c'est vraiment ça que Bruce Schneier vient souligner. C'est l'âge d'or de la surveillance. Ce qui nous expose dans ce livre-là, c'est l'ultra-présence des données dans notre vie qu'on ne craint plus, on s'en rend même plus compte, mais on fait l'objet d'une surveillance de masse et c'est pas difficile de savoir qui est Goliath dans le titre du livre.
C'est ça.
Et bien sûr, personne ne regarde précisément les données qui me concernent en temps réel, mais elles sont enregistrées à quelque part et peuvent servir éventuellement. Déjà en 2012, il y a des chercheurs qui démontraient, avec des recherches assez simples, qui pouvaient prévoir à quel endroit se trouveraient des gens dans 24 à 20 mètres près. Ils pouvaient donner votre orientation sexuelle, vos convictions politiques, vos opinions, seulement par vos déplacements, vos recherches, votre consommation.
Quand même, hein?
Les métadonnées, là, en fonction de quel département on a appelé, on sait le type de maladie dont vous souffrez si vous appelez à l'hôpital, si un autre fait pousser du pot à la maison ou si une femme a subi un avortement. C'est tous des exemples qui sont démontrés dans le livre. En 2014, en Ukraine, lorsqu'il y a des manifestants qui étaient réunis dans une zone, ils recevaient des textos du gouvernement qui disaient vous venez d'être enregistré comme un manifestant illégal.
Oui.
Et il y a un père qui a reçu aussi qui s'était plaint auprès de Target parce que Target envoyait des publicités de maternité à sa fille.
Or, elle était enceinte.
Oui. Et
ils l'ont prévu selon son profil Internet. Oh, je vous vois réagir, Patrick Nicole, c'est quelque chose quand même.
C'est affolant.
C'est complètement affolant. Et il dit d'ailleurs, on tolère un degré de surveillance électronique qu'on n'accepterait pas si on était dans un monde physique. Mais puisque c'est pas quelque chose de palpable, reconnaissance de l'iris, même les empreintes digitales sur le iPhone, évidemment, ça aussi, ça en fait partie. Il y a vraiment des histoires d'horreur et cette capacité de récolter des données a jamais été aussi grande. Et
c'est un geste commercial aussi dans bien des cas.
Tout à fait. Il y a vraiment une conjonction d'intérêts, mais ce que nous dit Bruce Schneier, et c'est un peu ce que Edward Snowden disait d'ailleurs sur C-51, sur le projet de loi antiterroriste, c'est que bien sûr, les grandes lignes étaient rédigées avant même l'attaque contre le Parlement à Ottawa. On attendait un incident pour le sortir. Là, ça n'a pas été écrit en quelques semaines.
Ouais.
Mais ce projet de loi-là, comme d'autres, vient avaliser le droit des États de récolter ces données-là et de les interpréter aussi. Au nom de la sécurité, parce qu'on craint le terrorisme, les prédateurs sexuels pour les enfants, les trafiquants de drogue, les cyberattaques chinoises, ouais. les étrangers, ce que vous voulez, on va donner notre vie privée, on va renoncer à notre droit à la vie privée.
Or, on a plus de chances d'être frappé par la foudre que d'être victime d'un acte terroriste.
On a 10 fois plus de risque de mourir frappé par la foudre que dans une attaque terroriste. Alors,
il faudrait faire une loi contre la foudre.
Mais peut-être.
Oui, c'est toujours la statistique.
Ben, c'est un peu ça. Alors, est-ce que c'est au nom de la sécurité? Bullshit, comme disait Denis Coderre.
Ce grand philosophe.
Oui. D'ailleurs, l'auteur souligne que jamais une quelconque attaque terroriste a été prévenue grâce à la surveillance de masse. C'est grâce à la surveillance d'individus qu'on savait déjà fichés et dangereux. Alors, le danger, c'est qu'on fait ça au nom du contrôle de la population. Mais contrairement au scénario de George Orwell, c'est pas pour en faire une société aseptisée d'automates, habillés pareils, qui professent les mêmes évidences creuses. Non, au contraire, il faut laisser l'illusion de la liberté.
Comme les plus récents candidats politiques, ce que disaient vos notes, là, je vous cite, vous étiez particulièrement inspiés. Hein,
oui, je suis désolé. Hein. j'ai quelques noms en tête, mais on n'a pas de temps.
Donc, c'est pas pour en faire une population aseptisée, mais c'est pourquoi?
Ben, c'est parce qu'il faut donner quand même l'illusion de la liberté. Oui. C'est ça qu'il dit. Alors, la technologie actuellement nous permettrait d'envoyer une contravention à quiconque grille un feu rouge. Mais il faut laisser une place à la transgression pour donner l'illusion de la liberté. Mm-hmm. Pourquoi c'est dangereux? Parce que ça permet aussi une discrimination basée sur tant de critères idéologiques, pas une discrimination comme on l'entend habituellement, là, une discrimination de base des autorités sur qui est une menace et qui ne l'est pas. Et ça, c'est très dangereux en fonction des opinions que les gens peuvent avoir.
Oui.
Il cite d'ailleurs le cardinal de Richelieu dans son essai,
Brian
Schneider, ouais, qui disait qu'on me donne 6 lignes écrites de la main du plus honnête homme, j'y trouverai de quoi le faire pendre. Et effectivement, c'est ça le danger de
ces données-là. Sympathique le cardinal Richelieu, oui.
Et il parle vraiment d'un partenariat public-privé de surveillance, parce que tout ça est mené par des entreprises privées à des buts très lucratifs, mais il y a cette conjonction d'intérêts entre les entreprises qui veulent nous vendre des trucs et savoir quelles sont nos habitudes de consommation et les gouvernements qui veulent récolter ces données-là. Les motivations sont différentes, mais les méthodes sont les mêmes. C'est toute une industrie de la collecte de données qui s'est imposée et on a une réaction très, très libertarienne face à la technologie. C'est ce qu'il nous dit. On craint la surveillance des États, mais pas des entreprises. Or, c'est la même chose.
C'est la même chose, oui.
Alors, que si la NSC ou la FBI jugent que vos données sont d'intérêt pour eux, ils vont aller les chercher de toute façon.
J'ai lu une vaste enquête publiée, je crois, dans le Vanity Fair ou dans The Atlantic sur Facebook il y a quelques années où on racontait que le FBI et Facebook étaient copains comme cochons.
Et Google aussi, oui. c'est ce que Snowden...
Oui, qu'il y avait une visite régulière des agents du FBI dans les bureaux de Facebook
tout
et qu'on
fait.
Avait des meetings et qu'on échangeait de l'information allègrement.
Et certains ont déjà refusé de donner leurs informations. Ils ont fermé.
Et voilà.
C'est assez particulier. Ouais. Alors, quoi faire?
Oui.
Brian Schneier dit, oubliez les réformes législatives, ça ne viendra pas des gouvernements qui en profitent, évidemment. Il n'est pas anti-technologie, mais il dit, on n'a pas la même exigence de transparence envers nos gouvernements que celle qu'eux nous imposent. Et c'est peut-être un des problèmes de base. Par exemple, est-ce qu'on pourrait forcer les NSC de ce monde à rendre public automatiquement les documents après un certain laps de temps? Le FBI est soumis, par exemple, au principe des mandats. Il lui faut un mandat pour aller chercher de l'information, la NSC américaine ne l'est pas. Et en fonction de C-51 ici, la CRS ne le sera pas non plus pour un grand nombre d'interventions. Alors, pour le gouvernement, ben, il faut un certain mécanisme de reddition de comptes pour les entreprises aussi. C'est ça la particularité. Or, on n'est pas dans une période où est-ce qu'on va imposer une certaine reddition de comptes aux entreprises. On n'est même pas capable de le faire dans le système financier.
Mais alors, la stratégie la plus simple dans ce cas-là, c'est de ne pas laisser de traces puis de se débrancher.
Ben, bonne chance. Bonne chance, parce que vivre sans laisser de données, c'est pratiquement impossible.
Ouais.
Il a essayé, c'est assez impossible. Il y a le cryptage, l'accès au cryptage, mais en quelque sorte, c'est vraiment le contrat social qu'il faut revoir quant à l'utilisation des données sur notre vie privée. Très intéressant.
Alors, ce livre donc de Bruce Schneier est publié chez W.W. Norton. Parlons en deuxième lieu de Surveillance, le risque totalitaire de Franck Leroy, publié chez Actes Sud l'an dernier, en 2014. L'auteur est consultant et architecte en système d'information professionnelle.
Et c'est très difficile de trouver une photo ou une entrevue avec lui. Il est très, très difficile. discret et secret, c'est assez particulier. Mais c'est vraiment une réflexion sur le danger qui est inhérent à une concentration d'informations à ce point-là dans les mains du gouvernement. Parce que, il parle d'Edward Snowden, il revient un peu sur les révélations qu'il a fait, mais avant tout, il dit la surveillance, c'est un outil pour exercer le pouvoir. C'était vrai avant, ça l'est encore plus maintenant. Et actuellement, on est dans des démocraties, ou en tout cas, elles se présentent comme telles. Et la question qu'il pose, c'est, elle est d'autant plus pertinente après, par exemple, les attentats contre Charlie Hebdo, ou quand le premier ministre Valls, en France, dit le Front National risque d'accéder à la présidence en 2017. C'est, qu'est-ce qui se passe si un gouvernement autoritaire ou un gouvernement tyrannique s'empare de ces outils-là demain matin? Et pour lui, la surveillance, c'est un peu la continuité de la guerre. Alors, c'est un petit peu le danger qui sous-tend avec ça, avec une surenchère technologique qui est aussi dangereuse.
Il y a un ton alarmiste quand même.
Il dit on a migré d'une société d'espionnage militaire industriel à celle des utilisateurs, des citoyens. Et c'est la construction orwellienne qui tait son nom et qui est permise par des machineries très sophistiquées qui sont en vigueur de nos jours. Et là, toute la question de l'éthique prend tout son sens. Il fait référence à Hannah Arendt aussi, de ceux qui font qu'obéir aux ordres en allant chercher ces données-là. Julian Assange, Foucault aussi. Mais le constat, c'est que la dérive est absolument magistrale et que le consommateur est complètement prisonnier. Le citoyen est devenu consommateur, on le sait. Il est prisonnier de ses activités sur la toile et que la réponse à cet espionnage technologique ne peut pas être technologique. Alors lui, il diffère de Brian Schneier là-dessus. Le cryptage, c'est pas une solution, c'est se battre contre des entreprises qui ont de l'argent, une armée d'informaticiens et d'ingénieurs. Alors, les armes sont pas égales. Qu'est-ce qu'on peut espérer d'autre? Une réaction citoyenne. Si je peux me permettre, c'est un petit peu comme dans la pub de Oka où ils sont obnubilés par l'assiette de fromage. En technologie, c'est le gadget qui va l'emporter nécessairement sur ces dérives, malheureusement.
Oui, ça en dit beaucoup sur notre époque. Surveillance, le risque totalitaire de Franck Leroy est publié chez Actes Sud. Nous allons placer les références des livres dont il a été question avec vous, Jean-Philippe Cipriani, au cours de ce segment sur notre site web. Merci beaucoup.
Sur ICI Radio-Canada Première,
plus on est fou, plus on lit,
avec Marie-Louise Arsenault.
Pour nous suivre sur Facebook et échanger avec nous, facebook.com/plus on lit.